l'esprit des lieux. Tofik Hakem.
J'ai hérité de cette maison en 2010. Elle appartenait à Patrick de Broude-Laurière. Patrick de Laurière voulait avoir un hôtel particulier à Paris pour donner des concerts. Il voulait donner des concerts d'une centaine de personnes. Il m'a dit « cherche un hôtel particulier ». Donc j'ai commencé à chercher et je suis arrivé devant cette maison. J'ai dit « ça c'est une des maisons les plus extraordinaires que j'ai vues ». Il n'y a qu'un défaut, c'est qu'on ne peut pas donner un concert de 100 personnes. On peut donner des concerts d'une trentaine ou une quarantaine de personnes, c'est tout, pas plus. Bon, alors je dis « je vais continuer à chercher, mais cette maison est extraordinaire ». Et puis nous partons à Tanger. Il reçoit un coup de téléphone, lui dit « Monsieur, si vous êtes intéressé par la maison, il faut vous décider tout de suite, parce que sinon c'est Jack Nicholson qui va l'acheter ». Alors il a dit « je l'achète ».
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une maison très particulière située dans le quartier de Pigalle, à Paris. Cette demeure, construite dans le style néo-gothique, a connu bien des histoires aux étranges et inexpliquées. Cette maison n'aurait, dit-on, jamais porté bonheur à ceux qui l'ont occupée. Si elle échappe à Jack Nicholson, une chanteuse de variété de l'époque yéyé finira par l'acheter pour finalement ne pas y habiter. Jean-Jacques Giraud, son actuel propriétaire, nous ouvre les portes de l'étrange maison Frochot.
Cette maison est située dans l'avenue Frochot, qui est une avenue privée. Donc nous sommes dans le 9e arrondissement. C'est une avenue qui s'est lotie sous la Restauration et Louis-Philippe. Et je pense que c'est la première maison qui a fait partie de ce lotissement. Et c'est donc une avenue privée qui va jusqu'à la place Pigalle.
Cette maison, elle dénote en premier lieu par son architecture.
Thierry Cazot, écrivain passionné de l'histoire des quartiers de Paris.
Pour la recadrer un peu, elle a été construite autour de 1839, à peu près à la même époque que se construisait une bonne partie des autres maisons de l'avenue Frochot. Donc on est dans un lotissement privé. Simplement, cette maison, elle est dans le style néo-gothique, alors que les autres maisons sont soit néo-palladiennes, soit néo-renaissance, comme ça sera très à la mode dans les années 1840. Voilà. Mais il y en a une qui est singulière, qui en plus de ça est plus petite que les autres et qu'on remarque tout de suite, c'est cette maison du numéro 1 avec son style néo-gothique. Alors c'est un style qui, à cette époque-là, on va dire, n'est plus à la mode. Enfin, c'est la fin de la mode du néo-gothique. Le néo-gothique, c'est plutôt la Restauration, c'est la Duchesse de Berry, ce sera ensuite Marie d'Orléans. Mais voilà, mais en 1839, on est dans les derniers feux du néo-gothique. C'est presque plus à la mode.
Donc là, on est dans la cour intérieure en fait, de la maison Frochot.
Philippe Baudouin, auteur d'ouvrages sur l'histoire du spiritisme.
Et on est juste devant cette petite fontaine avec ce personnage assez intrigant, presque monstrueux, puisque effectivement c'est un enfant, en tout cas au premier abord. On voit ce visage d'un ange, et en fait dès qu'on se rapproche, c'est un buste en bronze où on voit effectivement un enfant, mais qui a des cornes, qui tient une corne dans sa bouche, mais qui ressemble surtout à un petit diablotin, avec la particularité d'avoir deux queues de poisson. Donc c'est vraiment une chimère. Et c'est ce personnage qui tourne le dos à la façade de la maison, où on voit ce beau window qu'on appelle Oriel également, qui est une fenêtre en encorbellement, et qui est vraiment typique du style néo-gothique de la fin 19e, avec des vitraux. Et forcément, ces scènes de la vie médiévale avec ses chevaliers, ses princesses, ses damoiselles, ses damoiseaux en couleur qui rajoutent quelque chose d'assez... Alors, il y a encore la lumière du jour là, mais il y a quelque chose d'assez austère et en tout cas assez imposant qui justement fait face aux visiteurs quand on arrive. Et puis, il y a la lumière. C'est ça qui est assez troublant, c'est que la lumière... La lumière du jour traverse les vitraux, mais il y a également la lumière artificielle qui éclaire le sous-sol, et le sous-sol qui est occupé par une cuisine. Alors c'est ça qui est assez déroutant quand on arrive, c'est qu'on voit, une des premières choses qu'on voit, c'est évidemment cet oriel, ce beau window, je le disais, mais aussi ces cuisines avec quelques rideaux où effectivement la vie est dans le sous-sol. Il y a quelqu'un effectivement qui prépare quelque chose, on voit dans la cuisine, on s'active au fourneau, donc la vie est presque souterraine.
On est dans une architecture qui est vraiment assez proche de ce qu'on peut trouver dans les chapelles de cimetière. C'est vraiment exactement le même esprit. Surtout que la maison n'est pas très très grande. C'est une maison qui doit faire à peu près 8 mètres de large sur la façade. Donc c'est pas une grande ampleur. Donc évidemment, on a l'impression d'une petite chapelle néo-gothique dans un cimetière. Surtout dans la partie du rez-de-chaussée, qui est la partie complètement néo-gothique, qui ressemble, comme le dit Mathieu Gallet dans son journal, à un tombeau néo-gothique.
On sait qui est l'architecte qui a demandé cette maison, si elle répondait à des vœux particuliers.
Alors, justement, cette maison, alors, elle est considérée comme hantée. Personnellement, je n'y crois pas, mais c'est mon opinion personnelle. En revanche, elle a plein de mystères, c'est ça qui est amusant. Le premier de ces mystères, c'est justement son commanditaire, pour être plus précis, sa commanditaire, qui est une dénommée Mademoiselle Rosalie Jeanne Hiss, sur lequel on n'a rien trouvé. On a fait des recherches, on ne sait pas qui est à l'origine de cette maison, sur le plan architectural. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Rosalie Jeanne Hiss, quand on voit les actes qui sont dans l'archive nationale, elle est célibataire majeure propriétaire. Or, au XIXe siècle, une femme n'est pas propriétaire. Ça peut paraître étonnant de nos jours, évidemment, mais voilà, une femme au XIXe siècle, elle est soit mariée, dans ce cas-là, c'est son mari qui est propriétaire, éventuellement elle est veuve, et dans ce cas-là, elle est propriétaire parce qu'elle a hérité, mais une femme majeure est rarement propriétaire. Donc on n'a rien sur cette Mademoiselle Hiss, c'est juste simplement étrange qu'elle ait l'argent, à titre personnel, comme ça, sans être mariée, pour se construire une maison. Ce qui est aussi amusant dans son cas, c'est qu'elle va se marier plus tard, dans les années 50, avec un monsieur qui a 25 ans de plus qu'elle, qui est architecte à la retraite. Donc ça, c'est une chose intéressante. C'est peut-être lui qui a construit cette maison. Donc voilà, c'est une espèce de mystère. Qui est cette Rosalie Jeanne Hiss qui a construit cette maison un peu fantastique, c'est certain, avec son bestiaire, son style néo-gothique, ses pinacles. Qui est cette femme? Nous ne le savons pas et peut-être que nous ne le saurons jamais.
La maison Frochot, on va l'appeler comme ça, hein, elle présente pas mal de caractéristiques du stéréotype même de la maison hantée. Je pense à la maison du diable de Robert Wise, par exemple. Lovecraft, hein, la maison de la sorcière. À quoi ça ressemble? Généralement, c'est une maison qui est en partie cachée, en partie dissimulée depuis l'extérieur. C'est le cas ici, c'est-à-dire qu'il faut passer une grille, et puis derrière un arbre assez imposant, on trouve cette façade. Et cette maison ici, elle est dans un style néo-gothique qui a la particularité de présenter pas mal d'aspects saillants, pointus, qui donnent un côté menaçant, assez impressionnant, avec des boiseries, avec du métal, et surtout une certaine envergure aussi. Ça, c'est pour l'aspect extérieur, avec les vitraux, qui rajoutent évidemment un charme désuet avec cet imaginaire médiéval, imaginaire qui est notamment rattaché aux sorcières, la possession, bon... À vrai dire, même si je suis venu dans cette maison à 2 ou 3 reprises, 4 reprises peut-être, depuis quelques années, à chaque fois, ce qui me surprend, c'est, malgré toutes les discussions que je peux avoir avec Jean-Jacques Giraud, le propriétaire actuel, c'est ce silence, en fait, presque une chape de plomb qui s'abat sur vous quand vous pénétrez dans cette maison.
Alors, l'histoire de cette maison, c'est l'histoire d'une maison, entre guillemets, classique parisienne, une succession de gens qui vont l'acheter. Et il y a simplement voilà, quelques étapes importantes dans la vie de cette maison. Il y a une première étape importante, qui est l'achat en 1853 par Victor Massé. Alors, Victor Massé, beaucoup de nos contemporains l'ont oublié, c'était pourtant un des plus grands compositeurs du 19e siècle, compositeur d'opérettes et d'opéra. Et le petit clin d'œil, d'ailleurs, c'est qu'il achète cette maison très exactement 2 jours avant la première des Noces de Jeannette, qui est son grand succès à l'Opéra Comique, qui va le rendre ultra célèbre. Il la revend en 60, c'est pas pourquoi, mais il y reste comme locataire. Et ensuite, il quitte la maison pendant quelques années. Il est remplacé, entre autres, par Ponson du Terrail, l'auteur de Carambole. Et puis, il revient en 67 et Il vit dans cette maison comme locataire jusqu'à sa mort en 84, et c'est là que c'est intéressant. Il meurt, alors ça c'est quelque chose de très difficile, évidemment, il meurt d'une maladie rare qui est la maladie de Charcot, qui est une maladie dégénérative. Et il passe les 6 dernières années de sa vie cloué au lit dans sa chambre ici à Mieux-Frochot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 102 ans après, en 1986, Mathieu Gallet, qui était chroniqueur sur France Inter, écrivain, et que moi j'ai entendu, il a bercé mes dimanches soirs au Masque et la Plume de ma jeunesse. Et Mathieu Gallet meurt ici de la même maladie, la maladie de Charcot, que Victor Massé 102 ans après, qui est quand même une maladie rarissime. Voilà un mystère de plus dans l'histoire de cette maison.
On est où là ?
Alors ici, nous sommes dans le salon, qui est donc transformé en salon de musique pour donner des concerts. Et c'est la pièce d'origine, qui date de 1838, néo-gothique, première vague du néo-gothique à Paris. Et c'est la raison pour laquelle elle a été classée monument historique. Quand cette maison a été achetée, c'était Mathieu Gallet, écrivain, qui l'occupait. Et c'était couvert de rayonnage avec des livres, sauf ce salon. Alors ce salon, il est d'origine, donc moi je tenais à ce qu'il soit préservé. Mais il n'y avait rien. Donc tout ce qu'il y a eu après, meubles, tout ça, ça a été acheté au fur et à mesure.
Il y avait le parquet, il y avait les verrières.
Alors évidemment, il y avait le vitrail, mais qui est postérieur. Il date de 1880, ou autour de 1880. Il a été rajouté après. Alors le mur est peint. C'est une peinture qui date de 1838. Et les boiseries sont sculptées en noyer, elles sont très, très bien sculptées. Et par contre, la cheminée a dû être ajoutée au moment où on a ajouté le vitrail, donc de postérieur, puisqu'il y a eu deux vagues de néo-gothique en France, la première sous la Restauration et Louis-Philippe, et puis la deuxième sous Napoléon III avec Viollet-le-Duc. Donc là, il y a une alcôve avec un piano, qui est un décor chinois, alors ça c'est pas néo-gothique, mais c'est un Bechstein, et donc il est là parce que je donne régulièrement des concerts dans ce salon.
Jean-Jacques Giraud, vous êtes musicien, compositeur.
Je suis compositeur. Je suis peintre et compositeur.
Est-ce que cette maison vous inspire ?
Je me sens bien dans cette maison, malgré la réputation qu'elle a. Je suis toujours senti bien accueilli dans cette maison. Alors, sans doute, puisqu'elle avait cette réputation d'être hantée, certaines personnes ont dû avoir une impression négative, mais moi, je n'ai jamais eu. Il y a eu un crime dans cette maison. Il y a un couple qui n'avait pas d'héritier et qui ont laissé la maison à une servante. Et on l'a retrouvée assassinée un mois après. Et c'est depuis que la maison a la réputation d'être hantée.
Alors en 1901, un dénommé Léon Lang, comptable, d'après les actes notariés, achète cette maison. Marguerite Lacroix, qu'il épouse en 1911, elle a 24 ans de moins que lui. Et que en 1922, Léon Lang fait une donation de la maison à sa femme. Qu'en 1935, Léon Lang meurt et que Madame Lang va rester dans la maison jusqu'à sa mort en 1975, ce qui fait quand même une durée de temps assez importante. Et là où le mystère s'épaissit, c'est qu'en 1963, Madame Lang vend la maison à sa femme de chambre, ce qui est assez rare. La légende, d'ailleurs, quand on lit les choses qui se disent sur cette maison, c'est que Madame Lang aurait donné sa maison à sa femme de chambre. Ce n'est pas vrai, elle ne l'a pas donnée. Elle l'a vraiment vendue, il y a un acte notarié officiel. Il y a aussi une petite chose amusante dans l'acte de vente, c'est que Madame Lang garde l'usufruit de deux pièces de la maison, en le vendant, mais en gardant l'usufruit d'un salon et d'une chambre dans la maison. Donc les deux femmes, la maîtresse et sa bonne, vont vivre ici, jusqu'à la mort de Madame Lang, en 75, ensemble, la bonne étant la propriétaire et, quelque part, hébergeant sa maîtresse, ce qui est quand même assez surréaliste. Et là où, évidemment, le surréaliste devient fantastique, on va dire, c'est qu'un an après la mort de Madame Lang, le 10 juin 1976, on retrouve la bonne Marguerite Lacroix sauvagement assassinée dans l'escalier.
Ça, c'est la salle à manger ?
Geneviève Delpech, veuve du chanteur Michel Delpech, médium.
Ça a toujours été la salle à manger ? D'accord. Non, je ressens rien de particulier. J'entends chanter. Il y a quelqu'un qui chantait, qui est venu ici ? Qui habitait ici ? Non, dans le passé.
Un compositeur de musique ?
Non, une femme. J'entends une femme chanter.
Quand Sylvie Vartan achète la maison en 1976, au travers d'une SCI, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais habité ici. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a eu peur du crime ou est-ce qu'elle voulait... À l'époque, avec Johnny Hallyday, ils vivaient à moitié à Los Angeles, à moitié en France. Je ne sais pas exactement quelle était leur vie à l'époque. Mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais habité ici et qu'elle l'a revendue au bout de 2 ans à Mathieu Gallet.
Monsieur Giraud n'habite pas dans cette maison, non plus.
Non plus, non. Tout comme son prédécesseur, Patrick Broude-Lourière, qui ne l'habitait pas non plus. Mathieu Gallet y a réellement habité. Il en parle d'ailleurs dans ses mémoires. Il dit que pendant les premières semaines ou les premiers mois, il y avait encore sur la serrure en bas les traces des scellés rouges de la police, ce qui fait que quand il rentrait sa clé dedans, il se tachait les doigts de rouge, un peu comme du sang. Ce qui, évidemment, donne aussi un aspect encore plus fantastique à l'histoire.
La cuisine, c'est où ?
On descend à la cuisine, là, et en dessous, il y a 2 étages de cave. Dont une cave souterraine qui s'enfonce dans les profondeurs de Paris.
Allons-y, ça m'intrigue.
Vous voulez voir ça ?
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
C'est Michael. C'est mon maître d'hôtel et il est ukrainien.
Vous savez que cette maison est un peu habitée, hein ?
Oui, je sais.
Vous pensez que c'est vrai d'ailleurs ou pas ?
Bah, je sais pas.
Vous avez jamais vu le fantôme ?
Jamais vu le fantôme, oui. Jamais. Jean. Pensez à ça. Moi, jamais. J'ai travaillé 10 ans, j'ai pas vu là.
Non, mais là, c'est froid. Là, dans l'escalier, c'est très, 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 très froid et triste.
Ici, nous sommes dans la cuisine. Et donc, fort heureusement, on a pu installer un ascenseur dans la maison parce que la cuisine, la salle à manger est 2 étages au-dessus.
Mais nous, on va prendre peut-être les marches.
Oui. Alors là, c'est glacial. Ce que je ressens, c'est de la tristesse et du froid, là. Ici. Parce que je vous ai demandé où était la cuisine, parce que je pensais que ça concernait une femme qui descendait dans la cuisine. Et dans les escaliers, il y a beaucoup de tristesse, là. Là, on est où ? C'était une chambre, ça, avant. Il y en a une autre ? Ça, c'est pas une chambre ? Là, il y a eu un mort dans cette chambre. je vois un homme tétanisé. Ce sont des chambres de bonne, ça peut être avant, non, vous savez pas. Il n'y a pas une autre chambre. Une petite chambre. Ou alors, il s'était deux chambres, ça, avant, non? Bon, alors je vais vous dire après tout ce que je ressens.
C'est votre chambre?
Non. Mais parce que moi, je n'habite pas ici. Tout le monde vous dira que j'habite pas ici parce que j'ai peur du fantôme. Mais j'habite un peu plus loin, Square Moncey, et c'est là où je vis. Ici, c'est pour les réceptions.
Vous l'aimez, cette maison?
Ah, beaucoup. Beaucoup. Ben, c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit classée monument historique, pour préserver cette décoration néo-gothique qui est exceptionnelle.
Mais pas suffisamment pour y habiter.
Mais j'habite ailleurs.
Est-ce que le maître des lieux vous invite de temps à autre à ses soirées, à ses dîners, à même ses soirées dansantes, masquées?
Alors non, mais j'ai déjà assisté à des concerts ici.
Thierry Cazot.
À la fois du temps du prédécesseur, Patrick Baudelaurière, ou de Jean-Jacques Giraud.
Et alors,
c'est tout à fait sympathique, hein. Non, il n'y a pas de... Je n'y ai jamais croisé de fantôme, si c'est la question que vous voulez me poser. Mais bon, c'est une maison qui a une très forte charge. Elle ne laisse pas les gens indifférents. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui, indépendamment de son histoire mystérieuse et hantée, quand ils arrivent ici, ils ne l'aiment pas. En plus de ça, c'est une maison qui est en vérité assez petite. Les pièces ont des volumes assez petits par rapport aux standards d'hôtels particuliers du quartier. Donc voilà, c'est vraiment, on peut se sentir oppressé dans cette maison. Donc oui, je connais des gens qui sont venus ici, qui m'ont dit « Ah mais je déteste ça, c'est affreux, c'est oppressant, c'est sombre. » C'est ce sentiment de peur quelque part qui est créé par ce décor. D'où justement le raccourci vers la maison hantée.
Je vais vous expliquer ce que je ressens. L'escalier est glacé. Tout l'escalier, hein, c'est pas, je ne sais pas pourquoi, mais l'escalier, plus que n'importe quelle pièce, est glacé. Et puis j'ai vu du sang. Dans l'escalier, il y a dû avoir un accident, je pense. Il n'y avait peut-être pas de moquette. Quelqu'un est tombé dans l'escalier. Enfin, il y a eu un mort dans cet escalier. Il y a eu beaucoup de sang. Voilà ce que je vois. Mais c'était quelque chose de violent. C'est quelqu'un qui est tombé sûrement d'un coup, vous voyez, sur la tête et qui perd beaucoup de sang de la tête. Dans la salle à manger, plutôt de bonnes vibrations dans la salle à manger. Il devait y avoir des repas gais, je suppose, je ne sais pas. Et je suis montée dans une première chambre à côté d'une salle de bain. Alors là, il y a eu des morts. Là, je suis sûre qu'il y a eu des morts. Il y avait un monsieur tétanisé que je voyais raide comme ça. Alors, avant sa mort, hein, tétanisé, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bien, mais c'était un homme qui était tétanisé. Cette maison n'est absolument pas maudite. On peut même y dormir, il ne vous arrivera rien. Mais vous pouvez entendre des bruits, c'est lourd. Parce que je pense que la personne qui est tombée, qui s'est tuée dans les escaliers, je pense à une femme, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et il faudrait l'aider à partir, elle est toujours là. Voilà ce que je ressens. Elle n'est absolument pas malveillante, pas du tout, elle est perdue. Et il n'y a rien de mauvais dans ce manoir, malgré les statues que l'on voit et tout, on pourrait, pas du tout, il n'est pas maudit du tout. Il demanderait même ce manoir, il voudrait qu'on l'aime. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il aimerait que quelqu'un le refasse vivre vraiment. Mais il faut faire partir cette dame qui est tombée dans les escaliers et qui est morte. Il y avait beaucoup de sang. Pour qu'il y ait du sang comme ça en tombant dans les escaliers, je pense qu'elle fait un trou dans... Je ne sais pas, c'était peut-être du ciment en bas, les escaliers, non? Je ne sais pas.
Et son fantôme continue à habiter cette maison?
J'aime pas le mot fantôme, parce que quand on pense fantôme, on voit des draps blancs. Il y a une énergie de cette femme qui est restée. C'est comme, elle revient en boucle. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé.
Ce n'est pas une dame, une femme qui est tombée dans l'escalier, elle a été assassinée.
Ah! d'où tout ce sang. Parce que je me posais une question, parce qu'elle était habillée bizarrement, cette femme. Une robe un peu comme moi, longue comme ça. Et je voyais tellement de sang au niveau de sa tête, parce que pour moi, c'est au niveau de sa tête que ça s'est passé, que je me suis dit, elle est tombée sur la tête, sur un des marches qui l'ont vraiment blessée. Maintenant, si vous me dites qu'elle a été assassinée, elle a reçu un coup très violent.
Ah oui, elle a été assassinée, oui.
Voilà. Ah ben elle est là.
Et ce que vous avez vu qui était comme ça, il y a eu deux personnes qui ont eu la maladie de Charcot, qui paralyse les muscles.
Je ne sais pas ce que c'est, la maladie
c'est
de Charcot.
C'est une maladie, vous êtes invalide, vous êtes...
Mais oui, j'ai vu, le monsieur, il était mais presque raide. Il avait les doigts comme ça.
Oui.
Et il est mort comme ça. Mais elle a été plein de fois nettoyée, cette maison.
Elle a été exorcisée.
Ah, je sens ça, ça y est, oui. Elle a été exorcisée, oui. Mais pour la dame, il faut beaucoup lui parler, il faut lui dire de partir. C'est peut-être elle qui fait qu'il y a une petite plaisanterie dans cette maison. Elle est en colère. Mais c'est pas méchant.
Vous qui habitez dans le quartier, Monsieur Cazot, quelle réputation a cette maison ?
Ah ben justement, oui, c'est la réputation de la maison dite hantée. Quand on en parle aux gens, ils disent tous « Ah, c'est la maison hantée ». Et d'ailleurs, quand on s'amuse...
Ils disent pas la maison maudite, ils disent la maison hantée.
Oui, ils disent la maison hantée. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu, quand on fait des petites recherches sur Internet, on voit qu'il y a des tas de choses fausses qui sont racontées. Parce que tout le monde se mélange. On lit qu'il y a eu deux crimes. Le crime de 1976, on vous le met en 1901, ou on vous le met sur Victor Massé. Enfin voilà, il y a une espèce de confusion générale qui existe sur cette maison, parce que justement, elle marque les gens, et les gens veulent savoir et brodent sur son histoire.
Sans vous proposer de reprendre cette maison, Philippe Audouin, vous seriez partant ?
Il faudrait que j'ai l'argent, mais si on m'en faisait cadeau, effectivement, j'y réfléchirais à deux fois, oui. J'y réfléchirais à deux fois parce qu'il y a ce sentiment, pas forcément d'étouffement, le mot serait excessif, mais une impression assez négative, en tout cas, que moi je ressens à chaque fois, à cause justement, non seulement de l'histoire, de son histoire, mais aussi du décor, des éléments qui s'y trouvent, et puis de cette fameuse charge psychique dont parlait à la fois Geneviève Delpech, mais aussi Thierry Cazot, qu'on ressent chacun un peu à notre manière.
C'était l'étrange maison Frochot, avec Thierry Cazot, spécialiste de l'histoire des quartiers de Paris, Philippe Baudouin, philosophe, auteur d'ouvrages sur l'histoire du spiritisme, Geneviève Delpech, médium, et le maître des lieux, Jean-Jacques Giraud. Coordination, Gwendoline Troiano, prise de son, Virginie Lorda, mixage, Pierre-Henri, réalisation, Semanina.